Vous écoutez RTL.
15h04 sur RTL, ma chère Flavie, bonjour.
Jean-Chloé triomphe. Chloé, on vous retrouve à 16h.
Oh bah attendez Flavie, parce que mon petit doigt m'a dit quelque chose.
Ah, qu'est-ce qu'il vous dit votre petit doigt?
J'espère mon petit doigt m'a dit de vous souhaiter bon anniversaire.
Ah, c'est très gentil ça.
Oui, mais comme je suis polie Flavie, comme je suis très polie, que j'aimerais pas du tout qu'on me le fasse, je demande pas combien de bougies.
Alors attendez, j'ai toute mon équipe qui est en train d'arriver dans ce studio et pas que.
Avec un gâteau.
Merci, je suis très touchée avec un magnifique bouquet de fleurs. Chloé Triomphe, je vous remercie.
Je vous remercie
également toute mon équipe qui vient de m'offrir un magnifique bouquet de fleurs pour fêter mes 25 ans. Ça me touche beaucoup.
Voilà.
Chloé.
Toute jeune Flavie.
Et vous verrez l'année prochaine, encore plus jeune l'année prochaine. Et moi, je fais tout à l'envers. Et je vous remercie, Chloé. Je vous retrouve à 16h pour un prochain point sur l'actu.
À tout à l'heure.
Alors, merci en tout cas à vous tous. Merci pour vos pensées. Merci aussi de la part de toute mon équipe qui est venue me soutenir aujourd'hui. Mais il faut quand même que je vous dise que notre rendez-vous, c'est dans un instant avec notre invité, le psychiatre David Gourion. Nous allons tenter de faire la lumière sur un trouble qui concerne 1% de la population française. C'est la schizophrénie. Il y a beaucoup d'idées reçues qui circule sur cette maladie, qui peut être traitée et puis également prise en charge. Toutes vos réactions sont attendues, et pas seulement les happy birthday, hein. Toutes vos réactions sont attendues aujourd'hui au 3210. L'émission commence dans un instant, à tout de suite.
RTL.
RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous étiez à l'écoute de nos programmes. Heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous retrouver pour la dernière semaine de la saison. Mais pas de panique, on se retrouvera très vite à la rentrée. Puis RTL va prendre soin de vous tout l'été, mais on n'en est pas encore là. Bonjour Marcel Ichou.
Bonjour Flavie.
Vous allez bien?
Bon, ça va bien, mais quel est votre secret pour rajeunir d'année en année?
Ah, ça je ne peux pas le livrer, je suis désolée. Je ne vous le donnerai pas en tout cas. Merci en tout cas Marcel pour vos pensées. Allez, aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'une maladie méconnue, stigmatisée, c'est la schizophrénie, qui est pourtant un trouble, je dirais, assez fréquent, puisqu'il concerne quand même 1% de la population, ce que l'on n'imagine pas au premier abord. Au-delà des idées reçues, la limitant au délire et hallucinations qu'elle occasionne, cette maladie est avant tout source de souffrance et d'exclusion pour ceux qui en sont atteints. Alors, quelles sont les causes et les symptômes de la schizophrénie? Les patients sont-ils vraiment dangereux? Que peut faire l'entourage pour les aider? Cette pathologie se guérit-elle et comment est-elle prise en charge? Si vous êtes concerné par le sujet, si vous souhaitez témoigner, si vous avez des questions également à nous poser, eh bien vous appelez le 3210 ou rendez-vous sur le blog ou la page Facebook dont on est fait pour s'entendre pour y laisser votre message. Et nous recevons aujourd'hui le psychiatre David Gourion. David Gourion, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit avec Anne Gutfaillant l'ouvrage Les troubles schizophréniques paru aux éditions Ellipse. C'est un trouble donc que vous connaissez. Est-ce que on peut dire qu'il faut déstigmatiser avant toute chose cette maladie?
Oui, et je trouve que c'est une bonne façon d'aborder le sujet, parce que le mot schizophrénie est un peu tombé dans le langage courant.
Oui.
Et les gens se disent « t'es schizo » ou « un schizophrène ». Et souvent, c'est confondu avec folie, avec dangerosité, avec meurtrier, avec un certain nombre de choses qui sont finalement des choses très péjoratives, alors qu'en réalité, ce sont des patients qui souffrent beaucoup, qui ont beaucoup de difficultés et qui d'ailleurs sont bien plus souvent eux-mêmes victimes d'agression, d'abus, de que eux-mêmes auteurs. En fait, il existe des schizophrènes dangereux, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Et donc, c'est vrai que c'est très important, parce que la société jette un regard très négatif, a toujours jeté un regard très négatif. Hein. Au Moyen-Âge, on brûlait les fous. Et tout ce qui inquiète, tout ce qu'on a du mal à comprendre, et bien plutôt que d'essayer de l'approcher, de l'appréhender, on a plutôt tendance à l'exclure, à le rejeter.
À le mettre en marge de la société.
Pour ça qu'on créait des asiles, c'était pour les mettre loin des villes. Et depuis, on va dire, les années 70-80, on est dans un mouvement plutôt inverse. D'ailleurs, vous avez vu, les asiles ont quasiment tous été détruits. On essaie de créer des petites structures dans la ville. Et c'est vrai que ce sont des patients souvent extrêmement attachants. Puis quand ils sont bien stabilisés, qui peuvent mener une vie normale, ils sont souvent des patients vraiment touchant et attachant.
Vous parliez des temps plus anciens où on brûlait les fous. Est-ce que l'on peut dire que la schizophrénie, être schizophrène, c'est être fou?
Moi, je ne sais pas bien ce que ça veut dire être fou.
Alors, c'est quoi la schizophrénie?
Alors, la schizophrénie, c'est une maladie fréquente, comme vous l'avez dit, qui commence entre 15 et 20 ans, voire 25 ans.
Donc c'est jeune.
maladie de l'adolescent, qui est d'ailleurs souvent confondue au départ avec une crise d'adolescence. Mm-hmm. Si vous voulez, on parlera des symptômes, mais pour vous donner un peu le début typique d'une schizophrénie, c'est cet adolescent qui commence, alors que tout fonctionnait plutôt bien à l'école, avec les parents, qui autour de 16-17 ans, commence à s'isoler, ferme un peu ses volets dans la journée, fait des trucs un peu bizarres, allume des bougies, on comprend pas bien ce qu'il dit, il vient plus dîner, il a plus tellement envie d'aller à l'école.
Donc ça, c'est pas la période gothique, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une marginalisation, une auto-exclusion.
Ça commence souvent par une marginalisation et puis surtout un comportement et un discours qui devient de plus en plus bizarre, qu'on a du mal à comprendre, qui devient un peu hermétique. On a l'impression qu'il vit une expérience, mais qui est presque indicible. Il peut pas mettre de mots dessus, il peut pas l'expliquer. Puis souvent, il commence à développer un peu de persécution. Mmh. Il commence à devenir un petit peu agressif envers la famille. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle ces symptômes déficitaires, hein, qui, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de déficit social. Il commence à plus voir ses amis, à plus vouloir voir sa famille, à se déscolariser. Il y a une cassure scolaire. Et ce syndrome déficitaire, c'est souvent la... C'est un peu le noyau dur de cette maladie parce que ça ne touche pas l'intelligence. Je crois que c'est très important de le dire. Ouais. Il y a d'ailleurs un prix Nobel de mathématiques et un très beau film sur lui qui était schizophrène. Mais c'est une maladie qui va entraîner et surtout un trouble des interactions sociales. C'est-à-dire que d'un seul coup, communiquer avec les autres, je me sens différent des autres. Je m'enferme dans une sorte de bulle un peu autistique comme ça et je me détache progressivement. Et si on vient pas m'aider, me soigner, eh bien je peux évoluer sur une sorte de continuum comme ça où je me détache de tout.
Alors on reviendra sur l'importance évidemment de l'entourage auprès d'un schizophrène, mais juste être schizophrène, est-ce que c'est se couper de la réalité ?
Oui, c'est un des symptômes majeurs de la schizophrénie. La schizophrénie finalement, on la classe dans les psychoses, c'est-à-dire dans les troubles qui entraînent ce que vous dites, c'est-à-dire une perte de contact avec la réalité, plus ou moins grande. Il y a des patients qui arrivent quand même à se maintenir dans une certaine forme de réalité, mais d'autres pour lesquels le monde est complètement étrange, n'arrivent pas simplement à aller faire des courses, s'occuper de leur appartement, discuter simplement, tranquillement. Ils vivent dans un monde qui est un monde extrêmement angoissant pour eux, extrêmement étranger.
Donc c'est une véritable souffrance, on l'a compris, que d'être schizophrène. Avec le docteur David Gourion, aujourd'hui, nous essayons de lever le voile sur cette pathologie. Une pathologie qui a différents visages. Et on va y revenir dans un instant avec vous, ainsi que vous, Marcel Ichoux. A tout de suite.
La vie flamand sur RTL. Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, la vie flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Le docteur, le psychiatre David Gourion est votre invité aujourd'hui en direct jusqu'à 16h sur RTL et nous parlons de la schizophrénie. Il est à l'origine d'un ouvrage, Vivre et comprendre les troubles schizophréniques aux éditions Ellipse. On a reçu déjà, docteur Gourion, un message sur notre blog de Christiane. Je suis fidèle de votre émission et je pense que vous êtes la seule, alors merci, mais on est toute une équipe, à pouvoir faire passer mon message auprès des autres médias. Les schizophrènes ne sont pas tous des criminels ou pires. Dès qu'un assassinat est perpétré, ne dites pas toujours qu'il s'agit d'un malade souffrant de schizophrénie. Pensez au ressenti de ces personnes et de leur famille. Je suis la maman d'un schizophrène et c'est absolument invivable. Merci d'avance. Merci Christiane aussi de nous parler de votre souffrance. Nous reviendrons dans un instant effectivement sur l'importance du message qu'il faut faire passer, déstigmatiser cette maladie, la rendre plus compréhensible et du coup elle fait évidemment moins peur, et l'importance aussi de l'entourage. Marcel Ichoux, vous vouliez intervenir avant qu'on continue?
Oui, sur la perception, parce que quand on décrit l'ensemble des symptômes, ils peuvent finalement coller avec des personnalités tout à fait normales ou avec d'autres diagnostics. Donc la difficulté, elle est dans la perception pour des gens qui sont non-initiés, et je dirais même pour des initiés. Et peut-être le mot le plus important, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui vous paraît
qui
étrange, et je vais continuer la métaphore, bizarre, étrange, étranger, et c'est pas pour rien que dans les civilisations telles que le nazisme, etc., on les mettait à part, c'est-à-dire que tout ce qui est étranger est fou et tout ce qui est fou doit être mis à l'écart de la société. Voilà. Mais évidemment, les schizophrènes ne sont pas des gens dangereux. Pour la plupart du temps, ils sont tout à fait normaux, mais dans un comportement social bizarre.
David Gourion, je le disais, c'est une maladie, la schizophrénie, une pathologie à multiples visages. Quels sont ces symptômes concrètement ? Alors, on parlait évidemment tout à l'heure des adolescents dont on sent qu'ils commencent à se marginaliser, qu'ils s'enferment dans leur chambre, qu'ils ont de moins en moins de contact avec la réalité. Mais quels sont les autres symptômes que l'on peut trouver chez quelqu'un qui souffre de schizophrénie ?
Alors en fait, c'est vrai qu'on divise un peu artificiellement d'ailleurs les symptômes entre symptômes positifs et symptômes négatifs.
Alors positif, expliquez, parce que positif, ce n'est pas que le bien et le pas bien, ça n'est pas ça.
Voilà, c'est pas que ce sont des symptômes. C'est positif, c'est ce que crée la maladie qui normalement ne devrait pas exister. Par exemple, des hallucinations. Environ 30-40% des patients schizophrènes souffrent d'hallucinations. Pas tous. Et en général, ce sont des hallucinations auditives. Entendre des voix ou des bruits, soit dans les oreilles, soit directement dans la tête. Ça, c'est un symptôme assez fréquent. Les hallucinations visuelles sont plus rares ou peuvent exister, hein, sur toutes les modalités sensorielles, olfactives, gustatives, synesthésiques, c'est-à-dire se sentir touché ou sentir des décharges électriques ou avoir des sensations sexuelles bizarres, etc. Donc, ça, c'est ce que la maladie crée qui normalement n'existerait pas. On classe aussi les symptômes délirants, les idées délirantes. Les idées délirantes, c'est avoir des pensées ou des idées bizarres, hein, comme le disait Marcel Ichou, ou totalement déconnecté de la réalité.
Ça peut être quoi comme idée ? Ce
sont très souvent des idées de persécution. On m'en veut, on veut me tuer,
paranoïa.
On me suit dans la rue, j'ai repéré, les gens me regardent un peu bizarrement, je suis enregistré à la maison, d'ailleurs je sens des odeurs bizarres ou des bruits bizarres. Mais ça peut être aussi des idées un peu mégalomaniaques ou mystiques, messianiques, je suis un ange ou je suis un envoyé du diable, ou etc. Et quand ces symptômes sont très 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 forts, très puissants, on parle parfois de syndrome d'influence, c'est-à-dire que d'un seul coup, les voix se mettent à donner des ordres et je ne peux pas résister à ces ordres.
On se soumet en fait aux voix que l'on entend.
On se soumet, on se sent un peu robotisé par rapport à ces voix. Et ça, c'est un critère de gravité extrême parce que si les voix me disent de me jeter sous le métro ou si les voix me disent d'aller agresser un tel et que je sens que je ne peux pas y résister, souvent ils luttent contre, mais voilà. Ça, c'est les symptômes positifs qui normalement n'existent pas.
D'accord.
Et en négatif, en inverse, les symptômes négatifs, c'est ce que la maladie enlève qui normalement devrait exister.
C'est-à-dire ?
L'énergie, l'envie de faire des choses, la capacité à gérer son quotidien, à s'organiser, à avoir une communication avec les autres, à planifier un petit peu son avenir, à faire des études, à travailler, etc. C'est tout ce que la maladie vient enlever, vient éroder avec... Comme ça, un sentiment de perte d'énergie globale, c'est d'ailleurs souvent ce dont les patients se plaignent au premier abord, un sentiment de perte d'énergie, de manque de motivation. Souvent, le décrochage scolaire, c'est ça. C'est-à-dire, d'un seul coup, cet adolescent qui était plutôt brillant, qui travaillait bien, d'un seul coup, ça ne l'intéresse plus. Il se sent ailleurs. Puis, il va s'intéresser complètement à autre chose. Il va s'intéresser à un truc philosophique, aux extraterrestres, ou truc comme ça, de monde un peu complètement à lui, mais en se déconnectant complètement du reste. Et là encore, hein, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur ce que disait Marcel Ichou, la grande difficulté, c'est qu'il y a plusieurs visages, plusieurs formes d'expression. Finalement, c'est beaucoup plus facile de reconnaître une schizophrénie qui va débuter sous la forme d'une bouffée délirante aiguë, parce que là, tout de suite, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout le monde le voit dans le comportement, dans le discours.
Parfois, c'est insidieux.
Mais parfois, c'est insidieux, ça commence juste par des symptômes déficitaires, je me retire, je reste dans ma chambre, je commence à plus étudier, ça se sent pas trop, il n'y a pas forcément d'hallucination. Et alors, ce qui est terrible, c'est que on estime que le délai entre le début des premiers symptômes et le premier diagnostic correct, il est de 12 ans en France. C'est-à-dire qu'on va perdre 12 ans d'évolution de la maladie sans donner un traitement, sachant qu'il y a des traitements et des interventions de soins.
Donc ça veut dire que la maladie s'aggrave avec le temps ?
Bien sûr.
Si on ne la calme pas ?
Alors, quand c'est insidieux comme ça, en fait, c'est pris... Alors les parents rationalisent un petit peu parce qu'ils ne comprennent pas bien, donc ils disent c'est une crise d'adolescence, il va y avoir un déclic, ça va repartir. Puis c'est une crise d'adolescence qui dure, puis de toute façon ça existe... Enfin, la crise d'adolescence, ça ne veut rien dire. Quand, si votre adolescent commence à avoir des comportements un peu étranges, bizarres, qu'il y a des changements et que ça dure plusieurs mois... c'est pas la peine d'attendre. Et puis, dans un deuxième temps, on emmène chez le médecin. Et puis, ce qui est compliqué en psychiatrie, c'est qu'on n'a pas d'examen complémentaire, comme en cardiologie, en pneumologie. On ne va pas faire une radio qui va dire, voilà le diagnostic. Et tout à l'heure, vous disiez, c'est très difficile de reconnaître, mais pour les médecins aussi. Et souvent, le médecin généraliste va se dire, oui, c'est une dépression. On parle de
c'est
dépression atypique.
Ça,
et puis, on leur donne des antidépresseurs. Et puis, on perd encore 3 ou 4 ans. Et puis, nous, on arrive, quand le patient nous est conduit, ça a commencé à 15 ans, on le voit à 25-30 ans. Je ne vais pas dire que la bataille est finie, mais gagner une insertion dans la vie à 25-30 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Et avoir déliré pendant 10 ou 15 ans, cette prière pour Jésus pendant 10 ou 15 ans, c'est beaucoup plus difficile après, même si la personne va bien,
c'est clair,
que si ça n'a duré que 6 mois.
C'est clair. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème que vous êtes en train de soulever sur le fait de pouvoir diagnostiquer la schizophrénie dont nous parlons avec vous jusqu'à 16h. Nous sommes en direct. On attend vos témoignages. Hein, n'hésitez pas, c'est au 3210 que ça se passe.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être à l'écoute de notre émission. Nous sommes en direct et aujourd'hui avec le docteur David Gourion qui est psychiatre. Nous parlons de la schizophrénie qui est une pathologie méconnue et stigmatisée. Et nous essayons justement d'en savoir un petit peu plus. David Gourion, vous expliquez qu'effectivement les premiers symptômes de la schizophrénie arrivent au moment de l'adolescence, hein, ou en tout cas les premiers malades entre 16 et 17 ans, mais que malheureusement la maladie est diagnostiquée plutôt à l'âge adulte, aux alentours de 30 ans. Qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné on puisse passer à côté d'une maladie pendant 10 ou 15 ans et surtout cette maladie qui s'aggrave avec les années qui passent?
Il y a sans doute plusieurs facteurs qui permettent de le comprendre. D'abord, le patient lui-même, bien souvent, n'a pas conscience de ses difficultés.
Donc il ne s'alerte pas de quoi que ce soit de ses comportements.
C'est ce qu'on appelle la nosognosie. Hein. On en avait parlé pour un homme politique dans le cas d'une maladie d'Alzheimer. Mais souvent, la nosognosie, l'absence de prise de conscience du trouble, est un des symptômes de la maladie. Alors, on ne peut pas reprocher au patient
de ne pas prendre
conscience, puisque c'est le symptôme de sa maladie. Mais parfois, l'entourage rentre un petit peu là-dedans et psychologise un peu les difficultés. Ben, il a eu une rupture sentimentale, ou bien il a eu des mauvaises notes, ou bien on a divorcé, c'est pour ça. Mais ça, il va y avoir un déclic. Le problème, c'est que quand ça dure plusieurs mois, hein, le conseil à donner aux parents qui pourraient être inquiets, puis souvent, les gens ont peur du psychiatre. Il faut dire ça aussi. C'est-à-dire, vous savez, il vaut mieux une consultation pour rien avec un spécialiste qui va vous dire, écoutez, non, je pense que votre enfant, simplement, il traverse une période difficile, quelques consultations avec une psychologue, etc. Plutôt que de risquer de faire perdre des chances à cet adolescent qui commence à aller mal, d'arriver trop tard. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un patient schizophrène sur 6 meurt par suicide. Ce qui montre d'ailleurs bien l'intensité de la détresse et de la souffrance psychique.
On dit que 50% des adultes schizophrènes ont un jour tenté justement de mettre fin à leur jour.
Oui.
Oui.
Les tentatives de suicide sont très fréquentes, mais plus encore,
ça peut être un déclic.
Le suicide, c'est la maladie psychiatrique dans laquelle 1 sur 6, ce qui est quand même
énorme.
Considérable.
Énorme et qui peut être évité évidemment si c'est diagnostiqué assez tôt. Comment ça se diagnostique? On met du temps?
On met du temps d'abord parce que c'est un trouble chronique, donc on estime qu'il faut que les symptômes aient duré au moins 6 mois avant de pouvoir porter le diagnostic. Et puis en psychiatrie, on n'a pas d'examen complémentaire, on n'a pas une radio qui va dire, voilà, c'est telle maladie ou telle maladie. Donc le diagnostic, il est clinique. Alors il y a une rigueur clinique, c'est pas parce que c'est de la psychiatrie qu'il n'y a pas des symptômes et une façon cohérente et rigoureuse de travailler.
Il n'y a pas le test du schizophrène.
Mais il n'y a pas le test du schizophrène, donc ça nécessite de bien évaluer les choses, de ne pas passer à côté, de ne pas se tromper. Bien souvent, c'est confondu avec une dépression. On va dire que c'est une dépression de l'adolescence, c'est une dépression atypique. Sauf que si cette dépression, elle dure, qu'elle ne répond pas au traitement habituel, qu'elle devient de plus en plus bizarre, etc. Là, il faut vraiment se poser des questions.
En tout cas, c'est dans une consultation avec un psychiatre que l'on parvient à mettre le doigt sur cette pathologie, on est
d'accord? Absolument. Alors les gens ne font pas toujours la différence entre psychiatre et psychologue. Psychiatre, c'est le médecin spécialiste qui va être à même de faire un diagnostic, sachant que ces pathologies-là ne relèvent pas du psychologue, en dehors d'une psychothérapie qui pourrait être ajoutée, mais il faut une prise en charge médicale, il faut qu'il y ait un médecin dans la prise en charge.
Et ça, c'est le psychiatre qui s'en charge. Quelles sont les causes de la schizophrénie?
Alors, on ne connaît pas les causes à proprement parler. On sait que ce sont des troubles multifactoriels. Simplement, on a identifié des facteurs de risque. Des facteurs de risque, ce sont des éléments qui, quand ils sont présents, augmentent le risque de développer une schizophrénie. Le principal d'entre eux, c'est la consommation de cannabis. Et la consommation de cannabis, surtout si elle est précoce. Avant 20 ans et encore plus avant 15 ans. C'est-à-dire que consommer du cannabis avant 15 ans, on l'a pas beaucoup dit d'ailleurs dans cet aspect politique de ces questions-là. Consommer du cannabis avant 15 ans multiplie le risque par 3 de développer une schizophrénie. Alors peut-être que cette personne avait déjà une petite vulnérabilité qui serait restée latente toute sa vie, mais l'utilisation du cannabis va décompenser cette vulnérabilité, il va rentrer dans la maladie. Ça, c'est le facteur le plus fréquent, c'est un facteur important parce qu'on peut agir sur lui. Et si dans une famille notamment, parce qu'on sait qu'il y a une petite composante génétique de la schizophrénie aussi, c'est un autre facteur, il y a des familles, il y en a plus que d'autres. notamment dans une famille où l'un des membres de la famille aurait souffert de schizophrénie ou de troubles psychiatriques graves, de déconseiller encore plus aux adolescents de leur dire « faites attention, s'il y a une vulnérabilité un peu génétique dans la famille, n'allez pas prendre de risques », ça c'est très très important. Il y a des causes médicales, on a pu montrer que les complications obstétricales, les complications néonatales qui entraînent des hypoxies cérébrales, le cerveau du bébé moins oxygéné, peuvent augmenter le risque modérément mais peuvent l'augmenter, des traumatismes crâniens graves. Un facteur très intéressant aussi, c'est le fait d'être migrant. Il y a eu beaucoup d'études anglaises qui ont montré que les migrants, qu'ils viennent d'Inde ou qu'ils viennent de Jamaïque, ont des taux de schizophrénie qui sont multipliés par 5, voire par 10.
Et comment ça s'explique, ça?
Alors, c'est très compliqué.
Alors, la Jamaïque, on va y revenir dans un instant, si vous voulez bien, parce que la Jamaïque, on peut quand même imaginer pourquoi.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Vivre et comprendre les troubles schizophréniques, c'est l'ouvrage qu'a coécrit notre invité David Gourion avec Anne Guttfaillant, paru aux éditions Ellipse. Aujourd'hui, nous avons décidé d'en savoir plus sur cette pathologie. Merci pour vos réactions et votre intérêt lors de cette émission. Alors, David Gourion, juste avant de prendre un papa en ligne qui s'appelle Daniel, qui est le papa d'un fils schizophrénique. Schizophrène, pourquoi je dis schizophrénique d'ailleurs? Schizophrène, hein, tout simplement. David Gourion, on était sur les causes de la schizophrénie et vous reveniez sur tout à l'heure l'idée que les populations migrantes étaient plus exposées à cette pathologie. Pour quelle raison ?
Absolument. Écoutez, on ne sait pas bien. Simplement, il y a une étude qui a été publiée l'année dernière dans la prestigieuse revue Nature qui faisait l'hypothèse que le fait d'être migrant dans un pays, en particulier dans un pays occidental, c'est un modèle d'exposition à des facteurs d'exclusion sociale précoce. Et notamment le regard des autres, le fait de sentir un peu observé, le fait d'être plus contrôlé, le fait d'être plus, de ressentir une forme de méfiance. Hein. Bon, tous ne vivent pas ça, ça dépend de tout un tas de facteurs, mais c'est une hypothèse parmi d'autres de compréhension du fait que les enfants de migrants, en réalité, hein, c'est pas les migrants eux-mêmes, leurs enfants souffrent plus de schizophrénie et avec des chiffres qui sont bien plus élevés que ceux qui existent dans leur pays d'origine. C'est bien le fait d'être migrant, c'est pas le fait de venir de tel ou tel pays.
Voilà, parce qu'effectivement, on le disait, hein, l'un des symptômes, en tout cas, du schizophrène, c'est l'idée de s'exclure de la société et de la réalité. Marcel, vous vouliez intervenir?
Oui, sur l'apparition d'une maladie, quand on en recherche une cause, les causes sont évidemment multifactoriel, c'est-à-dire à la fois psychanalytique, l'histoire du vécu de la personne, sociale, médicale. Il y a énormément de facteurs qui interviennent et à un moment, il y a ce qu'on appelle un facteur déclenchant. C'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est pour ça qu'ici on insiste avec David sur la non-banalisation des substances dites de drogue douce, parce que ces drogues appelées douces, elles peuvent quand même déclencher des schizophrénies.
Et favorisent évidemment les délires. Les hommes et les femmes sont-ils touchés de la même façon, David Gourion ?
Globalement, oui, mais les hommes présentent souvent des formes plus graves, plus sévères, plus précoces et qui répondent moins bien au traitement.
Ça s'explique ?
Écoutez, il y a des hypothèses hormonales qui ont été évoquées. En réalité, on ne sait pas très bien, mais c'est vrai que les hommes présentent souvent des formes qui vont commencer, qu'on appelle hébéphréniques, c'est-à-dire des formes extrêmement déficitaires, qui répondent peu aux médicaments. Et les femmes débutent plus souvent des formes autour de 20-25 ans, qui sont plutôt d'ailleurs très délirantes, ce qu'on appelle des bouffées délirantes aiguës, et qui répondent très bien au traitement.
Je vous propose tout de suite de parler avec Daniel. Daniel, il a 69 ans et il a voulu nous apporter son éclairage et son témoignage. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Merci de nous avoir appelé, d'avoir composé le 3210, Daniel. Vous êtes le papa d'un homme de 42 ans qui a été hospitalisé en décembre dernier. Sa schizophrénie, en fait, a été diagnostiquée il y a 7-8 ans. Dans quelles circonstances avez-vous pris connaissance et conscience de la pathologie de votre fils, Daniel ?
Alors, la pathologie de mon fils, on s'en est rendu compte, il avait environ une trentaine d'années. Il arrivait chez nous alors qu'il avait, disons, au niveau structurel, on n'était plus en contact avec lui depuis 7-8 ans.
Oui.
Et il est arrivé en voyant des démons, en se pensant poursuivi. Donc il est arrivé, il habitait à l'époque du côté de Bordeaux. Mm-hmm. Il est arrivé dans sa voiture chez sa sœur et chez qui j'étais à ce moment-là. Et on a rencontré une personne totalement différente de ce qu'on avait comme image. Donc c'était très très lourd au début, on comprenait pas bien, on n'était pas dans la rigolade, mais on était dans l'incompréhension totale.
Oui.
Donc ça c'est devenu très vite ingérable. Donc on s'est retrouvé à l'hôpital sur Abbeville, avec un service spécialisé. Et là, on a commencé à retomber sur terre et à comprendre un petit peu, parce que c'est très difficile à communiquer déjà avec les psychiatres. C'est contrairement à d'autres maladies, ils ont beaucoup de mal à nous dire les choses. Quand on a un cancer, on nous explique par A plus B ce que c'est que le cancer, ce qui nous attend. En psychiatrie, on tourne autour du pot, entre guillemets, on parle de tout, mais on comprend pas bien. Honnêtement, je comprenais pas bien et je suis assez cartésien, donc avec sa sœur, on comprenait pas ce qui nous arrivait. Et là, je l'ai vu complètement déraper. En plus, c'est un garçon qui prenait apparemment du cannabis. Il se faisait donc beaucoup de choses. Et on est tombé d'un seul coup dans un monde totalement étranger. Moi, j'étais totalement étranger à ça. Donc, j'ai pris le parti de consulter et d'accompagner mon fils parce que j'étais dans l'incapacité, disons, de trouver une réponse à ce que je voyais. Ça me sentait complètement à côté.
C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez vraiment le sentiment que l'univers de votre fils et le vôtre ne pouvaient pas se rencontrer et vous avez décidé de faire vous-même un travail afin de rentrer dans le monde de votre fils.
Disons, essayer de comprendre, étant donné la déstructuration que je voyais et la souffrance dans laquelle il était et la nôtre, parce que nous, on ne comprenait pas ce qui arrivait. On voyait des situations complètement, je dirais aberrantes, je dirais pas folles, mais aberrantes. Donc, on ne comprenait pas.
Et qu'avez-vous découvert, justement, et par quel biais avez-vous pu vous mettre en relation avec le monde de votre fils ?
À travers l'hôpital, avec les professionnels, qui m'ont très vite dit que mon fils, il était schizophrène, il avait des bouffées. Enfin, tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure, quand j'ai entendu la personne avec vous expliquer, il avait tous les positifs et tous les négatifs. Comme ça, c'était vraiment, on avait la totale.
Donc une forme sévère,
Très sévère. Donc, hospitalisation, sortie, et on a eu le droit à des choses absolument incompréhensibles.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez vécu justement de si incompréhensible en termes de situation ?
Incompréhensible dans le sens où mon univers ne ressemblait pas du tout à cette maladie.
Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez vécu, Daniel ?
J'ai vécu une grande souffrance, une grande incompréhension à la situation. Donc je me dis, moi, je suis pas capable de tenir. Si demain je vois mon fils en train de faire la manche dans la rue ou je ne sais quoi, parce que je voyais les choses extrêmement lourdes et incompréhensibles. Donc j'ai demandé à être accompagné. Donc j'étais en milieu hospitalier. On a commencé à m'expliquer des tas de choses, pas forcément le cas de mon fils parce qu'il ne voulait pas. Il fallait qu'il m'explique à côté. Donc on m'expliquait des tas de choses pour que j'arrive tout doucement à approcher, à comprendre. Ils m'ont repris moi-même depuis mon enfance, essayer de comprendre pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je faisais. Enfin bref, ça m'a permis de faire un point sur beaucoup de choses et surtout d'essayer d'accompagner mon fils. À l'époque, il était quand même assez d'accord sur ma présence.
Alors aujourd'hui, pardonnez-moi, je vais être obligée d'aller un petit peu vite parce qu'on est en direct. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en relation avec votre fils ? Comment va-t-il et comment allez-vous ?
Alors, comment la relation directe, il n'y en a plus parce que à sa dernière hospitalisation, il m'a rejeté avec tout le reste de la famille. Donc je suis en contact avec la psychiatre de l'hôpital Philippe Pinel d'Amiens. Pour avoir des nouvelles, pour essayer d'avoir un contact direct. Pour l'instant, il est dans le refus.
Oui.
Il est toujours hospitalisé parce qu'il y a des problèmes d'intendance autour, puisqu'il est pris en charge par toutes sortes d'organismes.
Oui. Et vous, alors, dans quel état
Moi, je continue à consulter régulièrement pour essayer de ne pas sombrer. Enfin, je ne sombre pas parce que j'ai d'autres pôles d'intérêt autour de moi. Entre autres, son fils qui a aujourd'hui passé 18 ans. Donc, je suis en contact avec son fils depuis sa naissance. Il n'a pas vu son fils depuis l'âge de 6 mois. On a une grande souffrance, donc et aujourd'hui je suis présent sans être présent puisque il est dans le rejet complet de plus en plus. Il s'est refermé, je ne sais pas sur quelle structure, mais il a plus de contact direct. avec sa famille proche.
Alors, Daniel, ce que je vous propose, c'est que vous restiez à l'écoute de cette émission, parce que dans un instant, avec David Gourion, nous allons parler effectivement de la difficulté d'accompagner une personne que l'on aime et qui en même temps nous échappe totalement, puisqu'elle s'enferme dans la spirale de la schizophrénie. Je vous remercie vraiment. On vous souhaite beaucoup de courage.
Merci, je fais ce que je peux.
On entend ça et merci d'avoir partagé avec les auditeurs d'RTL votre expérience et on vous souhaite d'aller au mieux.
C'est très difficile, si je peux me permettre encore
un mot. Bien sûr, je vous en prie.
Ce que j'ai compris à travers les psychiatres, c'est que cette maladie est transmissible environ à 50% d'une façon familiale. C'était le cas parce que sa mère est psychotique.
D'accord.
Et donc, ce qu'on fait attention, nous, derrière, c'est au niveau de son fils, des signes qu'on peut voir. Parce que, en réalité, si on avait su décrypter, je pense qu'au niveau, au niveau du CP, on aurait pu détecter les problèmes.
Voilà.
Et à l'époque, on n'était pas du tout préparé.
D'où le diagnostic précoce. On va y revenir dans un instant, justement, avec David Gourion. Est-ce que la schizophrénie est une épée de Damoclès, au-dessus de la tête des autres membres de la famille? Daniel, je vous embrasse et je vous remercie pour votre témoignage.
Je vous remercie. Je raccroche.
On se raccroche, mais on s'écoute toujours.
Et merci de m'avoir écouté.
Je vous en prie, on vous embrasse.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, et puis merci encore à Daniel qui nous a apporté son témoignage il y a quelques instants. Papa, d'un jeune homme schizophrène. David Gourion, Daniel soulignait il y a quelques instants qu'il surveillait de près le fils de son fils, c'est-à-dire son petit-fils. Il y a un véritable risque génétique
Absolument. Ouais. Il y a un risque génétique. Il y a eu des études de jumeaux, de vrais jumeaux, monozygotes, issus du même, qui ont exactement le même patrimoine génétique. Quand l'un des deux a la maladie, le risque que l'autre l'ait également est d'environ 50%. Alors le message important, c'est vrai qu'il y a une composante génétique, mais à patrimoine génétique complètement identique, l'autre jumeau a quand même une chance sur deux de ne pas être malade. Ce qui veut dire qu'il y a une composante génétique, mais il n'y a pas une fatalité génétique. Ça, c'est très très important. Il n'y a pas une destinée génétique, tout n'est pas inscrit dans les gènes. Si on a un parent ou un enfant ou un frère ou une sœur schizophrène, c'est-à-dire un apparenté du premier degré, le risque est entre 5 et 10%. Ce qui est important, mais qui reste là encore, il y a 90% de chances de ne pas développer cette maladie.
Anne-Marie nous a laissé un message d'Annecy. Mon fils est schizophrène, mon père l'était aussi. J'ai mis 12 ans à me faire entendre par les médecins. Ils refusaient de diagnostiquer mon fils comme schizophrène. Ils l'ont enfin diagnostiqué quand il a eu 23 ans. Il me disait avant que je faisais un transfert à cause de mon père. Alors, Daniel aussi l'a souligné, la difficulté à communiquer avec les psychiatres. Vous l'avez notifié quand il en a parlé.
Oui, c'est un vrai problème. Je pense que les choses ont changé, notamment depuis la loi Kouchner sur la transmission du dossier médical et sur la communication. Et c'est vrai que le diagnostic de schizophrénie, mais j'ai dit le diagnostic de cancer il y a 15 ans ou 20 ans, c'était tabou, on n'en parlait pas. Il y a aussi une culture chez certains psychiatres, je crois qu'il ne faut pas généraliser, il y a vraiment beaucoup de façons d'exercer la psychiatrie. Il y a aussi une certaine école qui a tendance à dire: le contact avec le patient est singulier, je ne veux pas rencontrer la famille pour pas interférer. Je crois qu'on n'est plus qu'en France à pratiquer la psychiatrie comme ça, mais pour avoir travaillé au Canada, les interactions avec les familles sont beaucoup plus importantes, il y a des groupes de psychoéducation et de support pour les familles, et on considère que les familles font partie de façon intégrante de la prise en charge et du traitement. On parle d'alliance thérapeutique avec la famille, et les études ont pu montrer que le fait d'avoir une famille présente, soutenante, était un facteur de bon pronostic pour le patient.
Ce qui semble, alors pardonnez-moi, mais totalement logique quand on sait qu'un patient schizophrène a une tendance à l'exclusion. Justement, on a besoin de le rassurer à travers une structure équilibrée.
Je vais le dire autrement. Ouais. Si le fils de Daniel n'avait pas une famille qui tient la route, peut-être que ce garçon se trouverait aujourd'hui en prison ou dans le métro en tant que SDF. Regardez d'ailleurs les SDF que vous voyez dans le métro, un grand nombre d'entre eux sont des schizophrènes, on les voit, ils ont des troubles du comportement, etc. C'est dramatique, c'est-à-dire qu'un grand nombre de ces patients, et puis en prison aussi, troubles du comportement, et ce qui évidemment n'est pas du tout le lieu où ils devraient être.
Donc la famille doit être évidemment investie quand elle le peut et quand elle le souhaite dans la guérison d'un schizophrène. On n'a pas assez insisté dessus, mais les schizophrènes sont des gens qui souffrent aussi de leur maladie, sont
absolument
des gens en souffrance. Vous voulez revenir dessus avant qu'on parle de la prise en charge ?
Oui, je crois que c'est très important ce que vous dites. Et la souffrance, elle est partagée par les proches.
Bah oui.
Avoir un enfant schizophrène, c'est vrai que dans les années 70-80, il y avait une école un peu de culpabilisation. On voyait pour l'autisme aussi, hein, où les psychiatres, les psychanalystes disaient aux parents, finalement, il y avait la mauvaise mère du psychotique. On sait aujourd'hui que tout ça est complètement faux. Et on sait aussi que la souffrance, elle est portée au premier plan par le patient. Et évidemment, il faut quand même se représenter ce que c'est que vivre toute la journée avec des voix. Puis ce sont des voix menaçantes. Hein. Le plus souvent, ce sont des voix qui insultent ou qui menacent, ou avec le sentiment qu'on va mourir. Hein. Donc c'est vraiment une détresse énorme. Et les familles, ce que décrit ce père, qui ces témoignages extrêmement touchants, il y a quelque chose du registre d'un deuil à faire. C'est-à-dire l'enfant qu'on pensait avoir, dont on imaginait une évolution, une trajectoire de vie, etc. Il faut réaliser ça, il faut accepter ça. Moi, je pense que les familles doivent demander à voir le psychiatre, doivent être reçues par le psychiatre et doivent être aidées. Parce que je pense que sans elle, on ne peut pas faire une prise en charge correcte des patients.
Rapidement, la prise en charge dont vous parlez, c'est systématiquement une hospitalisation et une prise de médicaments ?
Pas systématiquement une hospitalisation. Hospitalisation quand la forme est vraiment grave, qu'il y a des troubles du comportement, pour protéger le patient avant tout, et parfois aussi un peu l'entourage, parce qu'il peut arriver qu'il soit au départ agressif. Et puis surtout pour faire un diagnostic et mettre en route un traitement. Mais beaucoup de patients peuvent commencer un traitement en ambulatoire. Et en effet, hein, on a aujourd'hui, bon, on va pas rentrer dans le détail de ce qui se passe dans la neurobiologie de la schizophrénie, quoique c'est absolument passionnant, parce que vous savez que les neurosciences ont fait des bonds gigantesques qui nous permettent de beaucoup mieux comprendre les dérèglements neurobiologiques qui surviennent dans le cerveau des patients schizophrènes, d'ailleurs, qui ressemblent à ce qui se passerait dans notre cerveau si on prenait du LSD ou une drogue hallucinogène, sauf que là, simplement pour dire qu'il y a nécessité de pouvoir réguler, moduler ces voies neurobiologiques, et donc les traitements sont extrêmement efficaces. Chez environ 70-80% des patients peuvent apporter une amélioration extrêmement importante, si ce n'est une rémission, c'est-à-dire ce qu'on essaye d'obtenir.
On peut guérir. Hein.
Écoutez, il y a des guérisons. Alors c'est comme pour un diabétique, il va devoir prendre son traitement à vie, mais il y a des patients, moi j'ai des patients qui travaillent, qui fonctionnent, qui sont en couple, qui mène une vie, et je vous assure que vous le rencontreriez dans une soirée, vous ne sauriez pas qu'il a pu souffrir à un moment donné. J'ai un patient comme ça qui s'est spécialisé dans les grands crus classés. Je vous assure que mais même pour moi psychiatre, je le rencontrerai aujourd'hui, je serai incapable de dire qu'il y a 10 ans, il était hospitalisé, il entendait les voix des poètes disparus qui lui parlaient dans sa tête. Mais oui, donc c'est un message d'espoir. C'est pas uniquement diagnostiquer, se battre. C'est parce qu'il y a des enjeux et qu'on peut guérir ou en tout cas amener à une rémission très importante de ces patients.
Allez, on se retrouve si vous le voulez bien dans un instant pour conclure cette émission qui a filé vitesse grand V. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Marcel Ichoux.
Oui, alors comme toujours, et peut-être en médecine, mais plus encore en psychiatrie, il y a des difficultés de diagnostic parce qu'on a des critères. Pour les initiés, il y a une classification, le DSM, qui permet d'avoir tous les critères.
Ça veut dire quoi, DSM ? Bon.
Manuel de diagnostic statistique des troubles psychiatriques.
Très bien, voilà. Merci.
Donc, on a les symptômes, mais il suffit pas d'avoir les symptômes pour faire un diagnostic. Il faut avoir un vécu, et pour pouvoir affirmer, il faut que les troubles durent pendant plusieurs mois. Je voudrais revenir aussi sur une notion qui a été dite ici, qui est le dogme en psychiatrie. Parfois, vous savez, c'est comme les modes. Il y a des modes. C'est-à-dire le psychiatre, on parle pas à la famille, et puis après on parle à la famille.
Oui, c'est comme l'histoire des bébés, on les couche à
et peut-être que le plus important, encore plus en psychiatrie qu'en médecine, c'est l'humanité qu'il y a entre le patient et son thérapeute.
Ben ça, c'est bien la base. Ça nous semble la base.
Ça semble évident, mais
dans cette émission,
c'est pas toujours le cas.
David Gourion, je vous remercie d'avoir été l'invité des auditeurs d'RTL.
Merci beaucoup.
Vivre
merci
et comprendre les troubles schizophréniques, c'est le titre de votre ouvrage coécrit avec Anne Gutte-Faillant, paru aux éditions Ellipse. Merci Marcel Ichoux. On se retrouve demain, Marcel, et on va voyager. Pas besoin de passeport. On va voyager avec Alexandre Dubarry. Un Français, c'est un Italien de mauvaise humeur, disait Jean Cocteau. Eh bien, demain, nous allons nous attaquer aux clichés qui circulent sur nous, les Français. Et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Comment sommes-nous perçus au-delà de nos frontières? D'où viennent tous ces stéréotypes? Réponse demain à 15h sur cette antenne. Avant que l'on se quitte, je voudrais remercier toute l'équipe de cette émission qui, aujourd'hui, m'a fait très chaud au cœur à l'occasion de mes 25 ans. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous demain, 15h, tout de suite. Philippe Bouvard et les grosses têtes, évidemment. À demain.
Vous écoutez RTL.